Bonjour à tous et bienvenue sur Calade. Au sommaire de notre journal local et régional.
Opération de déminage à Villefranche-sur-Saône, 3 bombes ont été retrouvées sous le pont de Franc. Avec nous, Loïc Le Goff, adjoint au chef de centre au déminage de Lyon. Agriculture, la question de la transmission des exploitations se fait de plus en plus pressante. Nous sommes accompagnés de Jean-Luc, viticulteur à Belleville-en-Beaujolais et proche de son départ à la retraite. Et en conclusion, VSDS, aide à domicile du Val-de-Saône, une nouvelle organisation pour l'association afin de pallier aux problématiques de recrutement du secteur. Jointe par téléphone Séverine Guillou, directrice de VSDS. Calade, le journal. De la tenue des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin à l'exclusion des athlètes russes et biélorusses des compétitions internationales dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine le 24 février. L'année 2022 serait un cas d'école s'il fallait démontrer le caractère éminent politique du sport, nous dit un collectif de journalistes pour un article du journal Le Monde de ce jour. Un événement pourtant cristallise les débats les plus vifs. La Coupe du monde de football, organisée du 20 novembre au 18 décembre au Qatar. Les griefs sont légion à l'encontre du pays, accueillant l'un des rendez-vous sportifs les plus suivis à l'échelle de la planète. Soupçons de corruption dans le processus d'attribution, négation des droits humains, désastre écologique. Depuis plusieurs semaines, en France, une question anime les conversations. Faut-il renoncer à regarder ce mondial pour exprimer sa désapprobation ? Alors que les Bleus défendent leur titre dans l'Émirat, la plupart des grandes villes métropolitaines comme Paris, Lille ou encore Marseille ont renoncé à diffuser les matchs en public sur des écrans géants. Une décision prise aussi par de nombreuses communes, outre-Rhin, dont Berlin, mais aussi plusieurs bars et autres restaurants du pays avec le hashtag « Kein Qatar in mein Erkneipe ». Pas de Qatar dans mon bar. En guise de cri de ralliement sur les réseaux sociaux. Et vous, que ferez-vous ? Opération de déminage à Villefranche-sur-Saône. 3 bombes de la Seconde Guerre mondiale ont été retrouvées, immergées sous le pont de Franc. Les démineurs plongeurs de la sécurité civile et la gendarmerie nationale ont neutralisé puis extrait ces munitions de la Saône. Cette matinée du 14 novembre. Avec nous Loïc Le Goff, adjoint au chef de centre au déminage de Lyon.
Alors ces bombes-là ont été retrouvées par des plongeurs de la gendarmerie au mois de mars dernier et en faisant une plongée d'entraînement, ils ont découvert ces bombes. Ces bombes elles étaient sur le pont, dans le sens où tous les ponts de Lyon, une grande partie des ponts de Lyon ont été détruits par les Allemands pour assurer leur fuite en septembre 1944. Et la particularité du pont de Franc, c'est que le piège a été neutralisé par des gens qui ont coupé le fil. Donc le pont n'a pas explosé. Donc pourquoi les bombes sont à l'eau, par contre, ça on ne le sait pas. Est-ce que les gens les ont retirées? Est-ce qu'ils ont jeté toutes les bombes à l'eau? Au pire, peut-être qu'il y en a encore d'autres, ça on ne sait pas.
Quand vous dites les gens, c'est qui?
Des gens de la région qui ont, à l'époque du maquisard, résistants, qui ont pris du courage de les couper les fils avant que le pont soit détruit. 50 kilos, il y a 16 kilos d'explosifs dedans. Donc en fait, ils en mettaient beaucoup, peut-être 20, 30, pour pouvoir casser le tablier. Souvent, ils étaient soit au milieu, pas au niveau de la pile, mais sur le milieu pour pouvoir casser le pont. Voilà.
Comporte-t-il des risques sur ce type d'opération?
Elles sont inoffensives dans la mesure où il n'y a pas de système d'amorçage dessus, mais par contre, il y a quand même encore explosif que dessus. Et quelqu'un qui s'amuserait à les récupérer, à vouloir les démonter, les découper, là par contre il s'expose à de très très graves dangers. Quoi. Parce qu'il y a encore tout l'explosif qui est dedans. Ça il est intact, il n'a pas bougé ça.
Quel dispositif de sécurité engagez-vous?
Mercredi elles vont partir à Colmar et elles seront détruites vendredi matin.
À la question, ce sont des opérations régulières de vos services, Loïc Le Goff, adjoint au chef de centre au déminage de Lyon, nous dit.
Ah ben, en France, oui, il y a énormément d'engins de guerre, de la Seconde Guerre, Première Guerre, voire 1870. Oui, bien sûr, ouais, régulièrement. Nous, on fait tout Rhône-Alpes-Auvergne et on fait environ entre 12 et 15 tonnes par an.
C'est une spécialité, c'est ça?
C'est une spécialité de la sécurité civile, ouais. On est 18 au centre de Lyon, il y a 26 centres en France, et on gouverne, on fait toute la partie Rhône-Alpes, et en France, toutes les autres régions ont tout chacun quasiment un centre de déminage. Quoi.
Et en règle générale, c'est le même prototype que vous faites en découverte, ou on trouve d'autres?
Ah non, il y a plein de choses. Hein. Nous, on va de la cartouche de fusil jusqu'à la grosse bombe d'aviation. Ça, c'est des petites bombes d'aviation, 50 kilos. Il y a des bombes qui sont encore plus grosses. Quoi. Quand il y a des travaux dans Lyon, quand ils cassent des immeubles pour refaire des fondations, bah, des fois, ils nous appellent parce qu'ils ont trouvé des bombes. Quand on fait évacuer les villes et autres, les quartiers, c'est pour cette raison-là. Et là, comme il n'y a pas de danger dans la mesure où il n'y a pas de système d'amorçage, c'est pour ça qu'on n'a pas procédé à une évacuation ni de la ville, ni de la route. On n'a pas stoppé la route, on n'a pas fait tout ça. Il n'y a pas eu de raison de sécurité. sécurité.
Voilà. Ça peut être un citoyen également qui trouve alors une bombe comme ça.
On est appelé aussi par les pêcheurs allemands. Ça, c'est un souci, c'est qu'il y a plein de gens qui se promènent avec des aimants, c'est la mode, et qui remontent les munitions. Quoi. Ça, par contre, c'est un gros souci.
Qu'est-ce qu'on fait? Il faut tout de suite appeler.
Gendarmerie, police, les mairies, il faut appeler. Puis après, nous, on est appelés pour venir les retirer. Il faut surtout ne pas toucher, ne pas démonter, ne pas ramener chez soi, et voilà. Quitte à laisser sur place. Prendre un repère, il faut laisser sur place et ne pas y toucher.
La méthode alors pour effectivement les désamorcer, comment on fait alors?
Quand il y a un système d'amorçage, nous on le démonte, il y a une technique, je ne vous explique pas comment on fait. Oui. Et après pour les détruire, en fait, on va faire un gros trou avec un tractopelle, on va les mettre dedans, on va mettre un morceau de l'explosif avec un système d'amorçage, du sable, et ça va être détruit au fond d'un trou. Voilà, ça fait une grosse gerbe et c'est fini.
L'adjoint au chef du centre de déminage de Lyon, Loïc Le Goff, et son équipe, accompagnés de la gendarmerie nationale, intervenaient dans une opération de déminage cette matinée du 14 novembre. Il s'agit de 3 bombes de la Seconde Guerre mondiale, d'un mètre de long et de 50 kilos. Elles ont été retrouvées sous le pont de Francs à Villefranche. Agriculture, la question de la transmission se fait de plus en plus pressante. Près d'un tiers des agriculteurs ont plus de 55 ans, à l'heure où le nombre des installations ne cesse de baisser. Jean-Luc est viticulteur à Belleville-en-Beaujolais. Il est membre du SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, les Terres de Vinaissance, un projet de financement participatif porté par les vignerons. Proche de son départ à la retraite, Jean-Luc s'inquiète pour l'avenir des vignobles du terroir Beaujolais et il nous en fait part.
Mon siège social est là et j'ai des vignes sur 12 communes. Voilà.
Des vignes donc sur 12 communes, à peu près combien d'hectares en gros?
50 hectares.
Ça fait une belle propriété.
J'ai pas su dire non aux bailleurs qui m'ont fait confiance pour travailler leurs vignes. Comme on a parlé tout à l'heure, les problèmes de succession sont de plus en plus aigus. Alors j'ai quelque part fait ces vignes en attendant de travailler pour trouver des successions. Mais quelques années après, on n'a pas beaucoup progressé pour trouver des successions à mes bailleurs. J'en ai un peu en propriété, mais pas beaucoup. On a travaillé ça en conseil d'administration. Le bureau a travaillé vraiment pour la finalité du projet. Et de toute façon, on ne peut pas rester les deux pieds dans le même sabot. Ce ne sont pas les politiques qui pourront faire le travail à notre place. C'est à nous d'aller les voir et de nous aider et faire remonter nos problèmes. Surtout, j'ai bien peur que ces problèmes-là ne sont pas que chez nous, quoi. Donc voilà, c'est un
problème. Il se généralise évidemment sur tout le territoire du Beaujolais, peut-être même un petit peu plus.
Oui, surtout le territoire du Beaujolais. Comme je disais, j'ai visité cet été une coopérative au Luxembourg de 1200 hectares, à peu près l'équivalent de la nôtre. Et il y a 12 000 hectares au Luxembourg. Et la problématique de la succession est presque la même.
Si effectivement vous ne trouvez pas de succession possible.
Donc on travaille pour diviser cette exploitation, la rendre viable et surtout viable dans le sens où on peut la travailler parce qu'on ne peut pas ou difficilement reprendre 50 hectares du jour au lendemain, c'est presque impossible. L'idée c'est de la partager en 4 en équilibrant les appellations, les surfaces, les pentes et les parcelles mécanisables.
Très bien, et sinon ces 50 hectares deviennent quoi alors?
Donc la partie mécanisable, je pense trouver même à bas prix, et la partie où jamais aucun tracteur enjambeur n'est passé, où jamais aucun tracteur enjambeur ne passera, j'ai quand même des craintes que ça revienne en friche. Voilà.
C'est une perte économique en quelque sorte, oui, de la région. Hein,
perte économique de la région, perte qualitative, parce que souvent ces coteaux qui sont bien exposés, si nos anciens les ont plantés, c'est qu'ils avaient l'œil.
Donc, voilà. Ce que vous voulez dire, que ce sont de très bons vins,
voilà,
n'est-ce pas?
C'est ça, tout à fait, oui.
Donc en Beaujolais, c'est ça?
En Beaujolais et dans la plupart des crus du Beaujolais. J'ai des vignes en haut de Juliena, en haut de Chéna, en haut de Fleury, principalement les vignes les plus en pente. Quoi.
Appel aux nouveaux arrivants sur les terres du Beaujolais, c'est ça?
Ben oui, vous voyez, ça ne fait pas mourir, ça fait bientôt, depuis que j'ai commencé à me former, bientôt 50 ans que je suis dans le métier.
C'était Jean-Luc, viticulteur à Belleville-en-Beaujolais, dans le cadre de la question de la transmission des vignobles du terroir Beaujolais, de la prise de retraite de nombreux agriculteurs, inquiets pour l'avenir des vignobles du terroir Beaujolais. VSDS aide à domicile du Val-de-Saône, nouvelle organisation pour l'association, afin de pallier aux problématiques de recrutement du secteur. Séverine Guillou, directrice de VSDS, aide et soins à domicile Val-de-Saône-Dombes, Service est jointe par téléphone.
Nous, en tant que manager ressources, d'être attentifs si une salariée ou un salarié nous dit je suis fatiguée, je peux plus aller dans ce domicile parce que c'est contre mes valeurs professionnelles, et bien c'est de pouvoir passer la main à un collègue sans dire qu'on se retire aussi de domicile. Parce que des fois, on avait tellement peu de choix qu'on disait en fait, on n'a pas d'autres salariés, donc on se retire du domicile. Du coup, on laisse des usagers sans prise en charge, ce n'est pas entendable. L'idée, c'est vraiment d'avoir un maillage et une couverture sur le territoire assez large, et c'est de répondre le plus possible à toutes les demandes qu'on nous fait, que ce soit des mutuelles ou que ce soit des plans APA ou PCH de l'Ain ou de la métropole. Voilà, l'idée, c'est vraiment de répondre le plus possible. On a connu beaucoup de départs, de démissions, d'abandon de poste ces dernières années, et l'idée, c'est de redonner le goût et de dire, nous, notre association, elle fait ça, et de donner le goût aux futurs recrues, de dire « Ah ouais, chouette, j'ai ma part de responsabilité, j'ai ma part de parole, j'ai ma part d'idées, c'est-à-dire que je peux venir avec des idées, je peux les défendre, accepter ou pas, ça se voit plus tard, mais au moins, on laisse l'ouverture possible. »
Donc, il n'y a pas la question de la revalorisation par l'augmentation des salaires ou ce genre de choses. C'était une cause de départ aussi, souvent.
Oui, tout à fait. Alors, c'était du coup la cause des départs, puisque nos collègues, confrères ont eu beaucoup le Ségur, tous ceux qui sont dans le système hospitalier, notamment, et puis aussi les EHPAD ont eu des grosses revalorisations grâce au Ségur de la santé. Alors, nous, on vient d'avoir une revalorisation de notre indice, puisque on appartient à la convention collective de la branche de l'aide à domicile, donc on est sous convention, donc malheureusement on est financé par des pouvoirs publics qui sont le conseil départemental et l'ARS, et on ne peut pas avoir de flexibilité, donc en fait on applique nous simplement le tarif conventionnel, et effectivement on est tributaire de tout cela. Donc la revalorisation de l'indice va faire du bien, mais on en attend encore un peu plus, puisque les deux premiers échelons des premiers degrés de des intervenants à domicile sont encore sous la barrière du SMIC horaire, et donc tous les mois nous réajustons pour que ces salariés-là, ça concerne quelques salariés dans notre association, mais ces salariés-là qui arrivent aujourd'hui dans la branche de l'aide à domicile, qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas d'ancienneté dans le métier, sont au premier niveau, et du coup on revalorise nous tous les mois, on compense puisqu'on ne peut pas payer un salarié en dessous du SMIC. Ce qu'il faut savoir, et il faut bien prendre en compte l'évolution du métier, l'évolution de nos salariés. Aujourd'hui, on est face à des salariés essentiellement féminines et des jeunes femmes mères célibataires. Donc, on est obligé de s'adapter aussi à leur planning et à leurs contraintes, c'est-à-dire qu'elles ont des contraintes en termes de garde des enfants, en termes d'horaire, d'amplitude horaire. Elles peuvent souvent pas travailler le matin à 8 heures, souvent pas jusqu'à 20 heures. Donc, on est obligé de s'adapter. Donc, on essaye de s'adapter le plus possible quand on peut. Mais c'est aussi pour cela qu'on a toujours des postes vacants, parce qu'on est face à des demandes. On a des demandes, mais des personnes qui sont souvent soit pas véhiculées, soit qui n'ont pas le permis, soit qui ont des contraintes et des exigences horaires qui font qu'on ne peut malheureusement rien leur proposer, parce que nous, un planning tout découpé où elles peuvent travailler 2 heures le matin, 3 heures l'après-midi, enfin, c'est vraiment très compliqué à gérer. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, elles travaillent tous à temps partiel. Donc, quand on parle, on dit oui, une aide à domicile, elle ne gagne que 800 euros. OK, mais en fait, elle ne travaille pas à temps plein. Elle travaille à temps partiel. Donc, c'est normal. Il faut aussi comparer avec le temps de travail. Il n'y a pas qu'une question de salaire, il y a aussi une question de temps de travail. Mais en fait, il n'y a que quand on est dedans et qu'on aime notre métier, qu'on se rend compte que c'est un métier qui est très, très riche, qui est souvent méconnu du jeune public. Donc là, nos futures actions, en tous les cas, on va être soutenus aussi par le département de l'Ain, c'est d'aller toucher les jeunes publics, d'accueillir des élèves de 3e en stage pour leur donner envie, leur dire que non, c'est pas pourri. On ne fait pas que de laver ou récurer des lavabos ou nettoyer... laver des personnes âgées ou en difficulté. Non, il y a plein d'autres choses, il y a tout dans le contact, il y a tellement plein de choses, tellement de belles choses qui arrivent que on veut essayer de... Il faut qu'on touche le jeune public maintenant.
C'était Séverine Guillou, directrice de VSDS, aide et soins à domicile Val-de-Saône-d'Aube. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.